Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ECHO, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. À l'occasion des vacances scolaires, le CESM propose d'élargir la focale pour s'intéresser au traitement médiatique du fait militaire. Et aujourd'hui, on vous parle de YouTube. Avec 8 millions de vues cumulées depuis sa création, la chaîne de Mister Geopolitics ne s'arrête plus de grandir. Son objectif, vulgariser pour donner des clés de compréhension du monde. Pour ce faire, il multiplie les vidéos et totalise plus de 213 000 abonnés sur YouTube. Alors, comment tient-il la cadence? Quel regard a le jeune public sur la géopolitique? Et surtout, comment YouTube change-t-il la façon de raconter le fait géopolitique? Pour en parler, nous sommes avec Gildas Le Prince, alias Mister Geopolitics. Bonjour et bonjour. Bienvenue dans ECHO.
Merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Et justement, l'idée, c'est de présenter un peu votre chaîne à nos auditeurs. Vous vulgarisez la géopolitique et vous le faites via des reportages, mais aussi en face caméra. Est-ce que vous avez des contenus qui marchent le mieux? Enfin, quels sont-ils plutôt?
Alors, j'ai commencé avec ce désir ardent de comprendre le monde et de l'expliquer aux gens. Donc, c'était à la fois un besoin personnel de compréhension, mais je ne me voyais pas faire cette démarche sans l'expliquer derrière. Donc, j'ai commencé avec les moyens du bord parce que j'ai commencé avec zéro abonné, zéro connaissance, j'ai envie de dire, ou très peu de connaissances géopolitiques, et avec zéro euro en poche. Donc, c'était quand même très prétentieux à l'époque de se dire j'ai envie d'en faire mon métier. Mais ce désir était tellement ardent que je me suis accroché. Donc, les deux premières années, c'était surtout pour autant me construire une première audience que me former aux outils de la vidéo que
oui, parce
tout
que
simplement
c'était de... pas votre métier de base en
fait. Non, à la base j'avais déjà fait un peu de la vidéo de manière amateur mais je savais même pas régler un appareil photo, enfin je savais pas régler le b.a.ba du vidéaste. Et donc on va dire que les premières années j'ai fait avec les moyens du bord, donc c'était beaucoup de face caméra depuis chez moi, donc le cliché du youtubeur dans sa chambre, je suis passé par là. Et c'était plus en fait des revues d'actualité, des revues, des compilations de documents de l'ONU, des compilations d'ONG. Et j'en faisais des sujets un peu compréhensibles, par exemple sur les frontières maritimes, sur l'extrême pauvreté, comment on mesure l'extrême pauvreté, des sujets plus sur les actions humanitaires. C'était, avec le recul que j'ai aujourd'hui, une sorte d'initiation tout simplement à ces sujets-là. Donc j'ai commencé tout simplement avec les possibilités que j'avais à l'époque.
Se mettre en jambes aussi.
Exactement. Et ça se voit au niveau graphique, ça se voit au niveau du son. Voilà, c'est difficile de regarder ces premières vidéos avec le temps, mais c'était un apprentissage nécessaire. Mais je faisais ce travail-là avec l'objectif de me dire je veux faire du terrain. Parce qu'il se trouve que quand j'ai eu l'idée de lancer cette chaîne, c'était au cours d'un projet que j'ai lancé après mes études.
Vous étiez au Mexique ?
Alors, j'étais à la fin de mes études, j'étais au Mexique, mais je suis rentré pour une dernière année d'études à Dauphine, en France. Il se trouve que j'ai fait un projet un peu d'année sabbatique où je me suis autofinancé avec une campagne de financement participatif et j'ai fait le tour de la mer Méditerranée physiquement. Donc, je suis parti du détroit de Gibraltar côté nord. Le but, c'était d'arriver en face côté sud en faisant tout le tour de la mer Méditerranée. Bon, il y a eu quelques... C'était assez rock'n'roll, il y a eu quelques petits rebondissements parce que c'était en 2015, au moment où il y a eu l'État islamique. Donc, c'était.
Effectivement.
Il y a eu quelques petits changements dans le programme. Mais. Tout ça pour dire que je faisais du terrain un petit peu à ce moment-là, même si c'était très amateur, que je rentrais pas forcément à fond dans les sujets, c'était un peu une initiation de surface, mais je sentais que ce terrain-là me plaisait particulièrement parce qu'en fait j'y trouvais des réponses et une manière de parler qui me plaisait.
Et est-ce que ça plaisait aussi à votre audience ?
Alors à l'époque, c'était un projet, pour la Méditerranée, c'était vraiment un projet ponctuel. À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais devenir youtubeur en rentrant, finalement, que ça allait être un voyage initiatique qui allait m'amener à la case youtubeur. Cette idée-là est née pendant le trajet. Mais donc du coup, à l'époque, je voyais ce projet-là comme une ligne en plus sur mon CV d'une expérience d'un an qui me donne du poids en plus à mon parcours académique.
Et que vous auriez pu valoriser potentiellement.
Exactement.
Plus tard.
Et c'était comme ça que je le voyais à l'époque. Donc je ne le voyais pas du tout dans le côté YouTube d'aujourd'hui où on cherche à créer une audience, on cherche à... Voilà.
Je pense d'ailleurs que ce type de projet, ça faisait partie un peu des prémices des super productions, entre guillemets.
Un petit peu parce que finalement, c'était particulièrement prenant parce que de monter en itinérance, parce que tous les épisodes, je les montais en itinérance. Donc c'était en auberge de jeunesse, à rester 5 heures devant la borne Wi-Fi pour que ça s'upload en ligne. Donc c'était effectivement très prenant. Je découvrais ça de manière très, très, très amateur, encore une fois. J'avais pas de bagage particulier à savoir comment filmer une interview. Donc les premières n'étaient pas top. Mais tout ça pour rebondir sur le fait que le terrain, j'avais conscience que je pouvais étudier n'importe quel bouquin pendant des années et des années. Coupler ça avec une expérience terrain, ça change tout en fait. Et parce qu'on n'en parle pas pareil. Et vu que je sentais que j'avais ce besoin un peu de vulgarisation, déjà un petit peu de besoin d'explication, je me suis dit, un peu comme Fred et Jamy de C'est pas sorcier, il y en a un qui est dans le camion, l'autre qui est sur le terrain, je me retrouvais finalement à faire un peu les deux, un peu du camion, un peu du terrain. Et je pouvais pas faire que du terrain sans étudier avant parce qu'en fait ça manquait de profondeur. Et je pouvais pas faire que du travail de bibliothèque entre guillemets. sans aller sur le terrain, parce que ça va manquer un peu de dynamisme et d'accroche avec le réel. Et donc, c'est là qu'est né ce besoin-là. Donc, c'est pour ça que les premières années de Mister Geopolitics, j'ai fait avec les moyens du bord. Mais dans l'idée, je voulais retourner sur le terrain, chose qui est arrivée au bout de 4 ans après le lancement de Mister Geopolitics.
Et en 7 ans, maintenant, ça fait 7 ans que vous êtes sur la plateforme. Vous avez produit tout un tas de sujets, dont notamment un reportage sur Charles de Gaulle. C'est-à-dire qu'il y a des sujets maritimes que vous traitez aussi potentiellement.
Oui, complètement. Bah, alors c'est marrant parce que la première vidéo sur ma chaîne, c'était sur les frontières maritimes. Donc déjà, il y avait une accroche autour des océans et du monde maritime. Dans les premiers reportages que j'ai faits, il se trouve que j'ai eu quelques ouvertures grâce à l'armée qui m'a autorisé certains accès. Il se trouvait qu'à ce moment-là, j'avais déjà fait des reportages pour Mister Geopolitics qui ne sont pas sortis sur la chaîne, mais parce que je ne les trouvais pas assez aboutis. Mais en Égypte, sur le canal de Suez, dans le Sinaï, en Espagne, sur le Gibraltar notamment, sur la partie sud de l'Andalousie où il y a El Erido, qui est un endroit où on cultive presque un tiers de tout ce qui est fruits et légumes sur le marché européen. Donc tout ça, ce n'est pas sorti, mais je sentais qu'en fait, il me manquait d'accroche vraiment plus géopolitique, même si bon, le Sinaï et le canal de Suez, il y avait un enjeu vraiment géopolitique. Et donc du coup, j'ai écrit sur les réseaux sociaux à l'armée de terre, en leur disant, écoutez, voilà ma chaîne YouTube, voilà mes réseaux, voilà ce que je publie. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, si vous pouviez m'accepter d'une manière ou d'une autre en Guyane pendant un mois, voilà tous les sujets que je pourrais faire, voilà comment je pourrais en parler. Et c'est là ils m'ont donné le top départ en me disant, bah, écoutez, on vous donne un point GPS, vous arrivez tel jour, telle heure. Et moi, j'ai pris donc mon petit billet d'avion et je suis parti les retrouver. Et donc, mes premiers reportages ont été avec un aspect militaire, une composante vraiment militaire, même si j'ai fait finalement des sujets qui ne sont pas innovants. Je veux dire, les sujets sur l'orpaillage, il y en a déjà beaucoup avant. Je n'ai pas innové particulièrement dessus. Mais
peut-être que vous avez innové dans la mostration.
Dans la manière de le montrer, dans la manière de le raconter. Mais je veux dire, le sujet de fond n'a pas été innovant. Voilà, j'ai eu l'occasion de mettre mon premier pied sur un bâtiment de la marine, puisque pour l'opération Titan, donc la protection des lancements de fusées à Kourou, il se trouve que j'ai pu le voir côté terrestre et j'ai pu le voir aussi côté maritime. On a passé 24 heures à bord d'un navire au large qui sécurisait la zone maritime. Donc ça a été la première expérience à bord d'un bâtiment de la marine. J'ai adoré l'expérience, même si la mer m'a moins aimé parce que j'ai malheureusement pas l'avantage d'avoir le pied marin.
Vous avez le mal de mer ?
Malheureusement, oui.
Et je vous rassure, y a une partie des marins qui ont aussi le mal de mer, c'est commun.
Et c'est ça que j'ai trouvé chouette, c'est que j'étais un peu honteux d'arriver et de passer pour le youtubeur qui débarque et qui ne sait pas tenir debout sur un bateau. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un accueil de la marine qui était très cool parce qu'ils m'ont dit, en blaguant, petite cure de régime pendant 24 heures, parce que j'étais effectivement un peu cloué au lit. Donc j'ai quand même pu filmer tout ce que je voulais, mais j'ai trouvé qu'ils étaient très cool parce qu'ils étaient vraiment là à m'ouvrir à leur monde et pas du tout être dans le jugement du ok, tu débarques de Paris, t'as pas le pied marin, ok. Voilà. Donc j'ai vraiment adoré l'accueil. Donc ça a été ma première expérience avec la marine et par la suite j'ai pu faire d'autres sujets. Et il se trouve qu'un an plus tard, suite aux vidéos que j'avais sorties en Guyane, la marine nationale m'a appelé tout simplement en me disant bah écoutez, on a adoré la manière dont vous traitiez ces sujets-là. Effectivement, comme tu disais, il n'y a pas eu de nouveauté sur le fond, mais sur la forme, il y a peut-être eu un truc un peu, peut-être une fraîcheur un peu particulière par rapport à YouTube. Et donc du coup, ils m'ont dit bah écoutez, le porte-avions vous ouvre ses portes si vous voulez pendant 5 jours plus une journée à bord de la frégate qui accompagne le groupe aéronaval. Et là, j'ai failli m'écrouler en apprenant la nouvelle.
La frégate Auvergne, du coup.
Exactement. Et j'ai tout de suite accepté. Et donc, j'ai pu en faire un reportage sur la dissuasion. Là encore, mon objectif de vulgarisation fait qu'il n'y a peut-être pas eu de nouveautés particulières sur le fond. Encore une fois, c'était comment je pouvais le rendre accessible à un public jeune qui était sur YouTube et qui peut-être n'était pas au courant de ces enjeux-là. Quoi.
Et ce qui est intéressant, ça permet de parler de votre audience. Votre audience, vous avez 200 000 abonnés sur YouTube. Les 18-35 ans à 70%. Question simple, mais est-ce que ça marche ? Est-ce que cette audience est plutôt réceptive quand même à vos contenus ? Comment voit-elle la géopolitique ?
Alors c'est ça qui est hyper intéressant et qui, je pense, me distingue d'un expert, parce que je ne suis absolument pas expert d'aucun sujet sur lequel je traite. Je peux développer une petite expertise sur certains sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, notamment le narcotrafic ou les sujets sur l'immigration, mais je ne suis pas expert. Et donc du coup, il y a peut-être quelque chose qui me différencie par rapport à un expert, c'est que je suis en permanence en train d'essayer de comprendre comment le grand public voit ce sujet-là. Parce qu'en fait, pour parler et pour foncièrement que ce public comprenne le sujet, il faut vraiment que je me dise « Ok, alors ils vont avoir ce préjugé en tête, ils vont peut-être avoir une difficulté à comprendre ce truc-là très précisément. Et mon boulot, c'est de comprendre ces points-là et de les leur présenter. Là où un expert, lui, va être tout simplement dans la complexité du monde, dans la réalité, du concret. Et donc, il ne va peut-être pas prendre le temps de voir comment l'audience peut percevoir son contenu. Il va le délivrer de cette manière-là. Même s'il fait un effort de vulgarisation, il ne va peut-être pas forcément avoir le temps de comprendre vraiment son audience. Moi, c'est mon objectif. Typiquement, j'essaye de voir même comment tel bord politique ou tel bord politique pourrait cerner tel enjeu militaire, tel truc. Et donc, c'est ça qui fait un peu la spécificité du vulgarisateur, c'est qu'on cherche à comprendre notre audience. Et donc, du coup, on y arrive plus ou moins bien sur les sujets. Et il y a des sujets qui, de toute façon, c'est comme la télé n'a rien inventé, je veux dire, le web n'a rien inventé par rapport à la télé. Il y a des sujets où on n'y peut rien, mais ça suscite une curiosité particulière, parfois pas toujours très saine, mais sur le narcotrafic, typiquement. Une vidéo sur le narcotrafic versus une vidéo sur la lutte contre l'extrême pauvreté, le narcotrafic va faire un carton au niveau d'audience, parce qu'il y a un côté un peu interdit, un peu... Voilà. C'est pas pour ça que c'est plus important, c'est pas pour ça qu'il faut parler que de ça. La difficulté, c'est que quand on commence à avoir un business model et vivre de cette activité-là, on peut être à un moment contraint, sans le vouloir, de s'orienter vers ce qui marche le mieux. Et on peut le comprendre quand on passe plusieurs mois sur une vidéo, à vraiment avancer des frais, aller sur le terrain, et y a un rapport de rationalité qui fait que parfois on peut être tenté de se dire « Ah, mais ce sujet-là, il va moins marcher. » Voilà. Donc au début, c'est vrai que dans les reportages, j'ai saisi toutes les opportunités que j'ai pu. Et il se trouve que j'ai fait beaucoup de sujets en lien avec le sujet militaire, parce que tout simplement, j'ai eu ces opportunités-là et que je me suis dit « Ce sera peut-être qu'une seule fois dans ma vie, go, j'y vais maintenant. » Tout comme là, il se trouve que la semaine dernière, j'étais au Kazakhstan, j'ai pu suivre la venue d'Emmanuel Macron en Asie centrale pour vulgariser comment ça se passe quand deux pays se rencontrent. Et ça, pareil, je me suis dit, go, c'est peut-être la seule fois de ma vie que j'aurai l'opportunité, j'y vais. Donc il se trouve que mes premiers reportages, ça, j'ai senti que certaines personnes pouvaient me le reprocher dans les commentaires. J'ai beaucoup traité de la question militaire, alors que je suis quand même très généraliste.
Mais ce que vous dites, c'est que vous avez souhaité profiter des opportunités pour justement faire des reportages sur le terrain.
Exactement.
C'est ça votre argument principal que vous avancez.
Exactement. Moi, c'est comme ça que je leur réponds à ces gens-là, c'est que je leur dis, en fait, c'est des opportunités et que j'ai beau travailler sur les sujets, le coupler avec une expérience terrain, il n'y a rien de mieux. Et donc, je ne veux pas passer à côté de ces opportunités, donc je les saisis au fur et à mesure quand elles arrivent.
Et il y a quelques instants, vous avez parlé du fait de bien comprendre son audience, et ça permet d'aborder et de parler de votre processus de création. Votre reportage sur le Charles de Gaulle, vous mixez la voix off avec aussi des cartes, avec des extraits vidéo. Comment est-ce que vous préparez peut-être d'abord en amont, puis en post-production vos vidéos? Il y a combien de temps peut-être pour un reportage sur Charles de Gaulle, mais en termes moyens?
Alors, faut comprendre que quand on crée du contenu sur Internet, on a différents formats de vidéos. Ça parle peut-être pas pour les gens, mais un format très court avec une interview d'un expert, ça va être très différent à produire d'un format vertical qui est destiné pour Instagram ou pour TikTok. On appelle ça vraiment des formats verticaux, simplement parce qu'ils sont verticaux et qui durent, ils durent 1 minute 30. Des formats reportage, voilà.
C'est comme pour les podcasts aussi. Le CESM a aussi le podcast Echo actuellement. Il y a aussi le podcast Periscope qui est un format un peu plus long de 50 minutes avec 3 intervenants.
Et dans les faits, c'est pas du tout la même manière de produire. Moi, ce que je veux, c'est alterner parce qu'en fait, on peut pas disparaître des plateformes trop longtemps. Les algorithmes en fait font qu'ils prennent la régularité de publication comme un critère de est-ce qu'on va mettre ce créateur-là en avant. Ils prennent pas que ça comme critère, ils prennent aussi ce qu'ils appellent le watch time, donc c'est la durée globale de visionnage. Est-ce que les gens sont arrêtés au bout de 2 secondes ou est-ce qu'ils sont allés globalement jusqu'au bout? Et donc du coup, on est quand même tenu à une forme de régularité, ce qui est extrêmement anxiogène pour un grand nombre de créateurs parce qu'il y a une pression permanente de « faut publier, faut publier, faut publier ».
Et vous, comment est-ce que vous faites pour tenir?
Et donc du coup, je suis passé par différentes étapes. Je suis passé par l'étape où je m'obligeais à un rythme de publication. Mais plus ça avançait, plus j'avais ce désir ardent d'être le plus qualitatif possible et donc je n'étais pas forcément satisfait de tout ce que je sortais. Il y a eu un moment où j'ai même tenté de publier presque tous les jours des formats très très courts, très peu travaillés sur le fond, enfin pardon, sur la forme, mais sur le fond. Et là encore, j'étais pas satisfait ni de ce que ça apportait en termes d'audience, ni même en termes de contenu. Et donc je me suis dit, je vais faire l'inverse, je vais publier un peu moins, tant pis pour cet aspect de régularité. Par contre, chaque chose que je vais sortir, ce sera léché, travaillé, soigné.
Et professionnel.
Exactement. Et c'est là-dessus que j'ai eu les meilleures audiences, c'est là-dessus que j'ai eu les meilleurs retours. Et donc, en fait, j'ai compris que je ne serais jamais comme Hugo Décrypte, par exemple, que certainement l'audience doit connaître, qui est un jeune journaliste qui cartonne parce que tout simplement, il a un peu révolutionné. Il a amené le journalisme sur les réseaux sociaux. Il finance 13 journalistes avec lui. Il a vraiment créé une équipe et il publie tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Et en parlant d'équipe, vous, est-ce que vous êtes entouré?
Eh bien, justement, puisque je suis seul, j'ai compris que je ne serai jamais comme Hugo Décrypte, c'est-à-dire que je n'aurai jamais cette capacité-là à publier tout le temps. Et en fait, j'ai compris que mon rôle, en fait, c'est comme C'est pas sorcier, on n'attend pas à ce que C'est pas sorcier sorte une vidéo tous les jours, en fait, il n'y a pas besoin. Une vidéo de temps en temps permet de mieux comprendre certaines choses, et j'ai compris que c'était ça, moi, mon ADN, finalement, mon objectif, c'était ça. J'étais satisfait du résultat que je faisais, j'avais eu le temps suffisamment d'aller loin dans les sujets pour pouvoir les vulgariser, parce qu'en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que vulgariser un sujet, vraiment pour une audience qui n'y connaît rien, ça demande une complexité parce que chaque terme doit être déconstruit, il faut trouver des analogies pour que ce soit compréhensible. Donc en fait, il y a vraiment un travail qui est peut-être pas forcément estimé toujours à sa juste valeur, mais le travail de rendre accessible ce contenu, parfois c'est titanesque, c'est vraiment titanesque.
Et justement, j'aimerais qu'on aborde un peu la... Il doit y avoir aussi la dimension de confidentialité qui doit impacter quand vous travaillez avec les armées. Comment est-ce que cette confidentialité impacte justement votre processus de production, et puis est-ce que ça rajoute davantage de travail potentiellement ?
Alors pas tant que ça, parce qu'encore une fois, les sujets que je publie en lien avec les armées, c'est pas du scoop, c'est pas une actualité chaude qui vient de se passer quelque part dans le monde où il y a beaucoup d'enjeux et d'intérêts mêlés, et donc du coup j'aurais été peut-être contraint, voilà. Moi, encore une fois, j'ai l'étiquette de C'est pas sorcier sur la tête, donc j'arrive pas du tout avec les mêmes démarches. Donc bien évidemment qu'il y a des choses sur lesquelles je peux parler, d'autres sur lesquelles on m'indique la ligne, mais c'est très peu, je suis très peu contraint. Je suis contraint sur le floutage, qui est complètement normal, et j'autorise le ministère à regarder mes reportages avant publication pour être sûr que tout soit bien flouté au niveau des écrans radars et des personnes.
Histoire d'être correct aussi vis-à-vis des...
Complètement. C'est ça. Encore une fois, je suis pas cache investigation. Mon objectif, c'est pas de révéler un éventuel scandale. L'idée, c'est vraiment de vulgariser. Et donc là-dessus, je suis complètement clair là-dessus. J'aurais dit pas de souci. Par contre, il n'y a pas de droit de regard sur l'éditorialisation du contenu. Je suis vraiment très libre là-dessus. Il n'y a jamais eu aucune tentative de leur côté de vouloir m'orienter. Mais du coup, typiquement, là, je sors la semaine prochaine une série sur la logistique militaire en cas de conflit. Donc j'ai pu suivre quelques unités logistiques et tout. Mais là encore, il y a très peu de secret défense qui ferait que ça me rajouterait du travail d'écriture. Je pense juste que j'ai la chance de pouvoir accéder sur le terrain et finalement être très peu embêté par ce point-là, en fait. Juste par contre, sur les questions cyber, ça, j'ai vu par expérience que c'est les sujets les plus touchy sur lesquels, effectivement, il y a beaucoup d'éléments de langage qui font que c'est des sujets, ils sont compliqués à vulgariser, même s'il y a des youtubeurs qui sont spécialisés vraiment là-dedans, comme MiCode, qui fait un travail extraordinaire là-dessus. Par expérience, je sais que c'est les sujets sur lesquels, de base, le discours va être le plus lissé possible et tout, parce qu'il y a des enjeux et des intérêts qui sont complexes. Et voilà, donc je sais que c'est un sujet sur lequel c'est très difficile, mais je l'ai peu traité jusqu'à présent.
Et justement, vous avez bien fait de parler de cyber. Actuellement, donc, on parle de sujets de défense. Est-ce que vraiment les sujets de défense, ça intéresse plus votre audience ? Vous avez parlé tout à l'heure du narcotrafic contre l'extrême pauvreté. Est-ce que les sujets de défense, peut-être ces dernières années, vous voyez une amélioration en termes de chiffres d'audience, une meilleure réceptivité, une meilleure réception de la part de votre audience sur ces sujets-là ?
Alors, depuis le conflit en Ukraine, il y a quelque chose qui est indéniable que j'ai vu sur les réseaux, c'est l'augmentation de contenu autour d'aspects géopolitiques et militaires de par le conflit. Ça, c'est indéniable. J'ai vu beaucoup plus de créateurs, même beaucoup d'étudiants qui sont en relations internationales, qui ouvrent des pages Instagram pour faire de l'actualité autour de ça, même si peut-être la page va mourir à la fin de leurs études, mais pour dire qu'il y a effectivement un engouement particulier autour de ces sujets-là. Mais je pense aussi qu'il y a une difficulté supplémentaire sur la perception aussi. Parce qu'en fait, typiquement, j'ai pu faire un sujet sur la rivalité entre le bloc de l'OTAN et la Russie. Et donc j'ai pu partir suivre un exercice de l'OTAN en Estonie. Et j'ai beaucoup appris, beaucoup compris de choses sur le terrain. Dans les faits, j'ai essayé, c'était 3 mois après l'attaque en Ukraine, j'ai essayé au maximum de rechercher une forme d'impartialité, même si elle n'existe pas, cette impartialité parfaite. J'ai essayé de tendre au maximum, ou du moins de m'éloigner au maximum de ce que j'ai pu voir sur le terrain pour confronter ça avec d'autres points de vue. Dans la réalité, j'ai eu des difficultés à faire intervenir des experts qui avaient un point de vue pro-russe à l'époque. Certains étaient carrément en partant, mais pas disponibles parce qu'ils étaient sur les plateaux télé en permanence. D'autres ne voulaient pas parce qu'ils jugeaient pas ça assez qualitatif sur YouTube et qu'ils préféraient privilégier tous les plateaux télé plus que Internet. Dans les faits, le reportage que j'en ai sorti est très pro-OTAN parce qu'en fait, j'ai donné la parole quasi choisi exclusivement qu'à des gens de l'OTAN ou de ce bloc-là.
Donc ce que vous dites, c'est que vous êtes obligé aussi, en fonction des contextes d'opération, d'adapter vos reportages à la réalité du terrain.
Complètement.
C'est parti aussi des défauts, enfin, peut-être pas des défauts, mais en tout cas des éléments à prendre en compte, notamment lors de la production et pas que.
Et c'est qu'en fait, encore une fois, si on veut toucher les gens, si je fais un contenu qui est peut-être trop orienté, je sais qu'il y a une frange des gens qui vont regarder, qui vont pas être convaincus par et qui du coup vont pas vouloir chercher soit à continuer à regarder, soit qu'ils vont pas forcément chercher à confronter leur point de vue parce qu'ils vont faire, de toute façon, mon point de vue à moi, il est pas représenté dans ce reportage, donc pro autant, je regarde plus. Donc en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que quand on est vulgarisateur, il faut encore une fois comprendre les gens qui vont le regarder. Et je pense qu'il y avait des gens qui avaient peut-être des attentes sur des contre-arguments, sur un autre narratif que celui peut-être que j'ai beaucoup mis en avant dans ce reportage. Ce n'était pas faute d'avoir essayé, j'ai fait le maximum, j'ai presque harcelé 11 experts pour qu'ils soient dedans. À un moment, j'étais obligé de conclure parce que l'actualité évoluant, j'étais obligé de le conclure et de publier. Mais pour dire que le travail de vulgarisateur, il est aussi de montrer différentes perspectives, un peu comme un journaliste tout simplement, parce que sinon, on risque de perdre potentiellement des gens et ça n'a pas loupé, il y a eu quelques petits commentaires. Encore une fois, il faut faire attention aux commentaires sur les vidéos YouTube parce que vous pouvez faire une vidéo qui fait 100 000 vues, vous allez avoir 30 000 likes et sur les 30 000 likes, vous allez avoir 300 commentaires. Donc, il faut faire attention à ce qu'on appelle la majorité silencieuse qui est la grande majorité des gens qui regardent les vidéos et que finalement, les commentaires prennent beaucoup de place physiquement et donc on peut leur donner beaucoup d'importance, il faut faire attention, il faut les prendre en compte, mais il faut faire attention à relativiser par rapport au reste. Mais ça n'a pas loupé, il y a eu quelques petits commentaires sur le fait qu'il y avait surtout un narratif qui était mis en avant et peut-être pas un autre. Et ça, encore une fois, je leur répondais que ce n'était pas faute de... Voilà, parce qu'on peut me prêter des intentions qui sont mauvaises en fait, c'est-à-dire on peut me dire que volontairement j'ai été orienté, volontairement que je n'ai pas fait cet effort-là, alors que dans les faits, j'ai fait cet effort, j'ai juste été bloqué, mais j'ai cherché à le montrer, cette réalité.
Et c'est peut-être à ça aussi que doivent vous servir les réseaux type Instagram et TikTok, c'est-à-dire peut-être à vous, peut-être pas à vous justifier, mais au moins à donner peut-être des éléments de coulisses pour que le public connaisse. Mais revenons un peu sur les sujets de défense. J'imagine que vous lisez l'actualité. On parle beaucoup de sujets militaires et de sujets de défense actuellement. Comment est-ce que vous voyez la suite? Est-ce que vous comptez continuer d'en parler parce que ça fait partie, en fait, on ne peut pas s'extraire du contexte, donc il faut en parler. Ou est-ce que vous comptez justement prendre peut-être un peu de recul et faire des sujets annexes?
Non, encore une fois, je continue avec un ADN et une définition de la géopolitique extrêmement large. Donc mon pseudo, c'est « Découvrir et comprendre le monde », donc ça me laisse le champ vraiment libre à beaucoup de sujets. J'ai défini 5-6 grandes thématiques sur lesquelles je pouvais faire du reportage. Donc il y a bien évidemment des enjeux de sécurité et de défense. Il y a des aspects plus stratégiques, notamment sur un reportage que j'ai pu faire en Arctique, sur les passages du Nord-Est, des enjeux plus liés autour des frontières et des migrations, des enjeux plus autour de tout ce qui peut être humanitaire, gestion de crise. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai essayé un petit peu de mélanger, c'est-à-dire que peut-être qu'à mes tout débuts, je faisais du sujet de sécurité de défense pour la sécurité de défense. Là, typiquement, quand je suis allé en Estonie, l'objectif, c'était de passer par le fait militaire pour finalement dézoomer sur des relations internationales entre deux blocs. J'ai pu aller en Martinique et en Guadeloupe, suivre des unités, notamment de la marine, mais pas que, sur un exercice militaire de protection de la population en cas de passage d'un cyclone. Et j'ai pu en faire un reportage qui n'est pas encore goupillé complètement et qui va sortir très prochainement, sur le dérèglement climatique, l'augmentation de certains types de catastrophes naturelles et comment les pays gèrent ces difficultés-là sur le terrain. Donc en fait, le fait militaire, moi, ça me permet de toucher finalement plein d'autres sous-thématiques derrière qui sont beaucoup plus larges que simplement les enjeux de sécurité de défense pour les enjeux de sécurité de défense.
Et si on se projette un peu, là, cette interview sera publiée en février 2024. Donc ça veut dire que vous allez continuer dans cette lancée?
Moi, je me vois pas arrêter. On me demande souvent, est-ce que tu te vois arrêter ou pas YouTube un moment? Parce qu'un peu comme si finalement ce n'était qu'un tremplin pour aller vers autre chose. On est très nombreux à dire que non, ça peut être une fin en soi. Je sais pas combien de temps ça durera et j'espère que le plus longtemps possible. Moi, je m'éclate vraiment dans mon boulot. J'apprends beaucoup de choses et j'ai l'impression d'offrir quelque chose, un contenu gratuit aux gens qui, je pense, j'aurais du mal à trouver si je faisais autre chose ailleurs. Donc non, je pense continuer le plus longtemps possible et toujours avec cette idée de m'ouvrir au maximum sur le monde. Je vais saisir les opportunités qui me seront offertes, mais je vois quelque chose, c'est que ce qui est complètement normal, c'est que plus ça avance, plus je cerne certains enjeux et plus je suis exigeant sur le contenu que je fais, plus ça me permet de rentrer en profondeur sur certains sujets. Là où finalement mes premiers reportages étaient vraiment des grandes introductions très générales, plus ça avance, plus je sens que niche un petit peu petit à petit sur certains sujets, et ce qui est du coup la progression normale en fait quand on étudie la géopolitique pendant un certain nombre d'années, quoi.
Et alors justement, on va terminer cette interview par une petite question. Ce podcast parle de faits navals et de faits maritimes principalement. L'idée, c'est d'avoir votre avis sur le 21e siècle et savoir si, pour vous, le 21e siècle sera le siècle du fait maritime.
Alors, j'ai envie de dire bien évidemment oui, parce que je pense aussi au passage du Nord-Est. Je pense aux jeunes générations qui s'intéressent énormément aux enjeux environnementaux et qu'on parle aussi d'énergie, on parle de ça. Donc, ça a à voir avec la mer dans un grand nombre de cas. Donc, oui, j'ai envie de dire que le 21e siècle sera certainement plus maritime qu'il ne l'a été par le passé. Et j'espère pouvoir rentrer dans le détail de certaines de ces thématiques. Le cas de Taïwan, effectivement, de la Chine, des rapports des rivalités. Et c'est intéressant parce que je prépare une petite vidéo là, courte sur TikTok et Insta sur justement les confrontations en mer de Chine, sur les premières rivalités. La toute première fois où il y a eu un choc entre les États-Unis et la Chine en mer jusqu'à aujourd'hui, et que je vois passer de plus en plus sur Twitter des rivalités dans cette zone-là. Donc peut-être que ça nécessitera de ma part un déplacement un jour pour un reportage. Mais oui, j'ai envie de dire que le 21e siècle sera certainement plus maritime que par le passé. Après, encore une fois, je ne suis pas expert, donc c'est mon ressenti de par les sujets que j'étudie, mais je pense que oui.
Ce sera le mot de la fin. Merci Gildas Le Prince. Je rappelle que vous êtes youtubeur, mais on va plutôt dire créateur de contenu, puisque vous avez plusieurs autres réseaux sociaux. Donc votre chaîne YouTube, pour le coup, s'appelle Mister Geopolitics. À tous nos éditeurs, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode d'Echo, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Thank you.